Ok, excusez-nous donc pour ce petit temps d'attente. Donc ce que Sandrine Glatron et moi-même allons essayer de faire, c'est vous donner un panorama historique et géographique. Donc basé sur des exemples, nous on est plutôt parti de l'idée de l'occupation de l'espace, le jardinage comme moyen d'occuper l'espace, mais on va essayer avec ça de tirer des pistes de réflexion sur cette notion de transition qui était donc le thème de la journée et voir comment ça peut s'appliquer ou pas, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est juste rhétorique, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la pratique. Et ce qui est formidable, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'échos avec ce que vous venez d'entendre sur la France et la Suisse. Dans l'autre sens plutôt. Donc je voulais repartir, comme il y avait bien le terme des communs dans la journée, repartir de ce qui s'est passé en Angleterre au XVIIe siècle, qui a été l'enclosure des communs. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'il y avait des terres qui étaient partagées par tous, qui pouvaient amener leurs bêtes ou les cultiver, les plus riches, les riches propriétaires, les ont fermées et donc tout un pan de la population a perdu l'accès. Et donc, quand il y a eu la révolution en Angleterre au XVIIe siècle, il y a un groupe appelé les Diggers qui s'est formé et qui allait enfreindre, donc passer outre ces barrières et continuer à cultiver ces communs. Et c'est vraiment décrit comme une pratique qui contestait la propriété privée. Donc, c'était vraiment un moyen de remettre en question l'ordre établi dans toute la société en transgressant cette barrière. Donc ensuite, je passe tout de suite au XIXe siècle, et là, on retrouve vraiment ce qui a été dit sur les jardins ouvriers. Maintenant, on est aux États-Unis. Là, en l'occurrence, c'est une photo prise à Manhattan. Donc la photo date de 1904, mais le mouvement a commencé avant. Et même chose, c'est des réformateurs qui vont mettre en place des jardins pour, voilà, même chose, paternalisme, hygiénisme, imposer des valeurs morales, etc. Mais ce qu'on a en plus par rapport à ce qu'on a en Europe, c'est que le public le plus visé sont les immigrés, sachant qu'à partir de la moitié du 19e siècle, il y a d'énormes vagues de migration aux États-Unis, et donc effectivement des personnes qui s'entassent dans les villes, qui vivent dans des conditions de salubrité vraiment très très mauvaises, et donc on a des philanthropes, des réformateurs qui encourage le jardinage et notamment celui des enfants. Donc là, c'est un jardin dans une école. Et l'idée étant donc tout ce qu'on a déjà dit sur les valeurs, mais en plus qu'en travaillant directement la terre, on allait faire de ces immigrés des vrais Américains et des bons patriotes qui allaient aimer leur nouveau pays. Petit point intéressant, c'est que la première ville en fait, où il y a eu un programme, alors là c'était dû vraiment à la crise économique, mais en 1892, les potato patches, c'est Détroit. Et c'est intéressant vu d'aujourd'hui, puisque Détroit est considéré comme vraiment l'exemple, c'est loin d'être le seul, mais l'exemple emblématique de ces villes désindustrialisées en décroissance, mais où petit à petit on a une reconquête du territoire urbain par les jardins. Donc là on a un retour historique assez intéressant. Et l'autre point intéressant, c'est qu'à cette époque, aux États-Unis, les immigrés ne sont pas la seule population considérée comme nécessitant une assimilation un peu de gré ou de force. Il y a aussi les peuples autochtones colonisés. Donc, fin 19e siècle, en gros, tous les Indiens qui n'ont pas été décimés par les guerres et les maladies sont maintenant forcés de vivre dans les réserves, et quitter la réserve est considéré comme une déclaration de guerre. Donc en fait, on a une sédentarisation forcée de peuples. Certains étaient déjà agriculteurs, mais beaucoup de tribus étaient nomades et chasseurs-cueilleurs. Et en fait, il y a encore une fois une imposition des bonnes valeurs américaines qui sont basées non seulement sur l'idéal agraire de Jefferson, mais surtout sur la propriété privée. Donc en fait, on force les Indiens à se sédentariser, à devenir agriculteurs, et on découpe les terres tribales en lots privés. Donc là, il y a vraiment une idée de transition du sauvage au civilisé par ces deux valeurs de l'agriculture et de la propriété privée. Ensuite, on a au cours du XXe siècle, en gros, trois grandes périodes de crise nationale. Et donc, ça va être des périodes où l'État fédéral va mettre en place des programmes pour encourager le jardinage et vraiment pour des questions de productivité. Et des questions patriotiques. Donc c'est les deux grandes guerres mondiales et la Grande Dépression. Donc là on est sur les guerres, et encore si on retourne sur les noms des jardins, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là on parle de Victory Garden, donc il y a vraiment un peu de méthode Coué là-dedans. Et l'idée c'est que tout le monde doit participer à l'effort de guerre, et on a encore l'idée du patriotisme, donc là on voit l'oncle Sam, symbole du pays, la femme qui fait des conserves. Je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez sûrement mieux, mais Slackerland, donc c'est l'idée qu'il ne faut pas d'oisiveté. Donc 19e siècle, pas d'oisiveté des immigrés, etc. Là, même pas d'oisiveté de la terre. Encore une fois, la terre elle-même doit participer à l'effort de guerre, le drapeau, etc. Donc là, on a vraiment un discours national sur « il faut produire ». Non seulement pour nous nourrir, nous, mais pour aussi nourrir l'Europe, parce que c'est un peu la mission messianique des États-Unis de sauver le monde. Et donc, on encourage notamment, je parlais d'occupation de l'espace, à utiliser des espaces qui, normalement, ne sont absolument pas prévus pour la production potagère. Et au contraire, maintenant, aujourd'hui, sur ces espaces-là, c'est très normé, il faut que ce soit de la pelouse bien propre, etc. Ici, on encourage au potager, là aussi. Donc, où normalement, on aurait de l'ornemental, et dans le pavillonnaire américain, c'est extrêmement important et, encore une fois, très normé. Et jusqu'à, là, c'est la Première Guerre mondiale, et on voit des scouts et puis des femmes qui vont cultiver Prospect Park, qui est un des grands parcs urbains à New York. Et donc, pareil, qui est normalement un espace vert dédié aux loisirs, voilà, à la détente, encore une fois, éviter d'aller au bistrot, etc. Et là, on va planter des carottes pour l'effort de guerre. Donc là, on voit que vraiment tout ce discours national fait vraiment repenser. On a un discours patriotique pour promouvoir la production par les citoyens. Et puis, malheureusement, je n'ai pas les images là, mais pendant la Grande Dépression, donc grande crise économique, énormément de chômage, pareil, on encourage les gens à cultiver la terre, pour des raisons évidentes, d'abord se nourrir, encore une fois pour éviter l'oisiveté. Et puis, il y a la création du Civilian Conservation Corps, donc là, on prend les jeunes garçons qui vivent dans les taudis dans les villes, et on les envoie faire des travaux à la campagne. Pour mesurer la réussite, pour pouvoir continuer à avoir des fonds fédéraux pour ce programme, mesurer la réussite, ils arrivent en groupe, on les pèse collectivement à l'arrivée, et ensuite on les pèse au bout de quelques mois, et on regarde combien de kilos ont été gagnés, pour montrer que ça marche. Et ce qui est, encore une fois, si on voit ça d'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, puisqu'au contraire, tous ces jardins sont vraiment en général utilisés pour la lutte contre l'obésité, en particulier aux États-Unis. Donc ça, c'était les grands programmes nationaux en temps de crise qui ont tous cessé une fois que la crise était passée. Là où ça commence à changer, donc là, on est à Berkeley, en Californie, à la fin des années 60. Et comme vous le savez sûrement, les années 60 aux États-Unis, c'est vraiment une période de foisonnement contestataire, de demande d'égalité des droits civiques pour les femmes, les Afro-Américains, les Amérindiens, etc. Et également une forte contestation du mode de vie capitaliste. Et donc là, on commence à voir l'usage des jardins comme discours sur la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange. Pardon. Donc ici, très rapidement, c'est considéré comme emblématique puisque c'est la naissance du People's Park à Berkeley. Donc c'est un terrain qui appartenait à l'université, sachant que c'était une université avec des étudiants plutôt de gauche. C'est la New Left, et donc qui luttait beaucoup contre la guerre du Vietnam, etc. Et où en fait, l'université a commencé à réguler la liberté de parole sur le campus, parce qu'ils en avaient marre d'avoir des gens qui criaient partout contre le gouvernement. Et par ailleurs, donc, l'université avait acheté ce terrain, mais qu'elle n'avait pas les moyens de développer. Donc c'était un terrain qui restait comme ça à l'abandon. Et donc les étudiants, les habitants, les commerçants ont décidé d'y aller d'eux-mêmes. Là, c'était un parking, donc ils ont désasphalté. Et ils en ont fait un grand parc, donc le People's Park, le parc du peuple, avec du potager, des jeux pour les enfants, des grandes fêtes, de la musique, mais également des endroits de libre expression, des dons de vêtements, beaucoup de sans-abri qui dormaient là. Voilà, donc pour dire, c'est OK, ça appartient à l'université, mais nous, on va en faire quelque chose. Ça a duré quelque temps comme ça, jusqu'à ce que l'université reprenne son droit, sa vision du droit de propriété, et donc mette des panneaux pour interdire l'entrée et commence à mettre du grillage. Là, les choses ont commencé un peu à chauffer entre les deux camps. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque, le gouverneur de Californie était un certain Ronald Reagan, donc pas particulièrement intéressé par les discours contestataires de ses étudiants. Et donc, il a fini par envoyer la garde nationale. Voilà, donc la création d'un parc a mené à des émeutes et à l'envoi de la garde nationale et vraiment d'une rencontre extrêmement violente avec des morts. Et voilà. Donc là, discours politique contestataire très clair. Bon. D'ailleurs, le parc existe toujours, mais beaucoup plus régulé. Et voilà. Et ça nous amène à ce qui est considéré comme la naissance des community gardens tels qu'on les connaît aujourd'hui à New York. Donc c'est après Berkeley, mais c'est vraiment dans la même idée. C'était un moment où la ville était en faillite et où il y avait un désinvestissement des pouvoirs publics et de l'investissement privé, avec beaucoup de propriétaires d'immeubles qui partaient et qui brûlaient les immeubles pour toucher l'argent de l'assurance et ne plus avoir à entretenir pour les locataires. Et donc, on se retrouve là, c'est le Bronx, qui est toujours, je pense que vous en avez tous entendu parler, pas forcément très positivement. Et donc, c'est le genre de quartier qui se retrouve avec ça, qui était aussi des quartiers où il n'y avait quasiment pas d'espace vert, parce que pendant 50 ans, la politique des espaces verts a été menée par Robert Moses, qui était très ouvertement raciste, et donc n'a pas du tout investi dans les quartiers latinos ou afro-américains. Parallèlement à ça, là, on a Central Park, donc qui est censé être le joyau d'émeraude de New York, mais comme la ville n'avait plus d'argent, c'était en état de déshérence, et puis il y avait tout le temps des manifestations, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que parmi les gens qui sont restés à New York, on a eu Liz Christie, que vous verrez tout à l'heure, et qui a lancé ce mouvement du guerrilla gardening, des green guerrillas. Et donc, l'idée, c'était de lancer des bombes à graines dans des terrains, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais dans la recette, c'est vraiment marqué qu'il faut lancer dans un terrain inaccessible. Et donc l'idée, c'est de montrer que ces terrains peuvent toujours servir à quelque chose et peuvent faire pousser quelque chose. Et donc là, y a la bombe explose et puis les graines, au bout d'un moment, donnent des fleurs. Voilà. Donc là, pareil, un discours sur l'abandon, le désinvestissement des pouvoirs publics. Et puis ensuite, ils sont allés plus loin en déblayant un terrain à Manhattan. Sachant qu'à l'époque, déblayer un terrain comme ça, ça voulait dire enlever des carcasses de voitures, des seringues, des choses comme ça, et déloger d'autres usagers, comme les prostituées, les trafiquants de drogue. Donc là, c'est vrai que c'est souvent raconté ensuite comme valeur d'usage contre valeur d'échange. En fait, il y avait déjà des usages, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, en quelques mois, ça a donné ça. Et donc, en fait, Liz Christie et ses amis ont utilisé ce jardin pour montrer à la ville qu'avec... quasiment aucun investissement financier, on pouvait quand même faire quelque chose de tous ces terrains abandonnés. Et donc, ils ont négocié pour que d'autres groupes d'habitants puissent louer pour $1 par an des terrains dans la ville. Et donc, comme ça, il y en a eu jusqu'à 1200. Et il y avait, voilà, il y avait un contrat entre la ville et les habitants pour pouvoir avoir notamment pour pouvoir avoir une assurance. Donc là, on commence à avoir une forme d'institutionnalisation et on va voir dans nos réflexions que... voilà les ambiguïtés que ça peut poser. Mais quand il y a institutionnalisation, il y a toujours des formes de résistance. Et là, on a par exemple le Garden of Eden, donc créé par Adam et Ève, évidemment. Adam Purple, donc, il a décidé de ne pas signer avec la ville. Donc évidemment pas pour le prix, parce qu'un dollar, voilà. Mais parce qu'il a dit, la ville s'est désinvestie de ce terrain, elle n'en a rien fait, moi je m'en suis occupée, donc je suis beaucoup plus légitime à l'avoir, je vois pas pourquoi je demanderais leur autorisation. Donc il a fini par être rasé, du coup. Mais là on est dans un mouvement encore plus contestataire, encore plus subversif, c'est-à-dire qu'il squattait son immeuble, et c'était vraiment toute la mouvance de l'époque de vivre sans argent. Donc par exemple, on le voit pour... Là, il va chercher du crottin de cheval à Central Park, mais en fait, il utilisait aussi ses propres déjections et du coup, il avait parfois un peu du mal à avoir du soutien. Il était peut-être un peu plus extrême que d'autres jardiniers. Et donc, il a toujours habillé en violet, et donc un personnage absolument incroyable, et donc lui a toujours refusé de signer quoi que ce soit en disant qu'il n'y avait pas de raison. Voilà. Je vais juste très rapidement, du coup, résumer les 40 années suivantes, c'est que donc on a eu cette institutionnalisation, mais comme dans les cas des guerres, etc., la naissance de ces jardins était extrêmement conjoncturelle, c'était lié à une débâcle économique. Et donc, dans les années 90, quand l'économie a repris, les terrains sont devenus très très chers, et à ce moment-là, les jardins sont apparus comme vraiment une perte d'espace, une perte d'argent. Et donc, le maire Giuliani a commencé à les raser à la pelle. Et en fait, ce qui a fini par les sauver, c'est l'argument environnemental. qui n'était quasiment pas utilisé avant, mais dans les années 2000, c'est commencé à devenir, donc là on en vient à la rhétorique et au discours, c'est commencé à devenir un argument valable, et ils ont été sauvés. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus de créés parce que tout simplement, les terrains à New York sont beaucoup trop chers, c'est pas possible. Donc du coup, on arrive à des recherches un peu plus créatives de où est-ce qu'on va jardiner, comment est-ce qu'on va jardiner. Donc là, on a l'exemple des pieds d'arbres, c'est très généralement ornemental, mais on a quelques cas comme ça de maïs dont je ne sais pas si vraiment quelqu'un le consomme, mais en tout cas, symboliquement, c'est quand même très très fort. On a aussi des entreprises de désasphaltage. Donc là, qui pousse un peu plus loin la réflexion jusqu'à cette idée aussi que les villes ont des sols trop imperméables et qu'il faut désimperméabiliser les sols. Et ça peut se faire, par exemple, à Rennes, il y a un programme, c'est juste des bandes de 10 cm de large. Là, à Portland, c'est des parkings entiers. Et puis des choses comme parking, vous avez peut-être entendu parler aussi. Ça a commencé à San Francisco, c'était un groupe d'artistes qui est parti de l'idée, et donc là on en revient au commun, au public et au privé, de dire, si on regarde les chiffres, on nous explique que le plus grand espace public à San Francisco, c'est la rue. Or, la rue est essentiellement utilisée par des voitures qui sont des espaces privés. Y a ça, et d'autre part, vous l'avez sûrement constaté, c'est pareil en France, dans beaucoup de villes, ça devient de plus en plus difficile de trouver un endroit où s'asseoir dans l'espace public. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait là, c'est pour le coup une occupation tout à fait légale, parce qu'ils ont payé, ils ont mis de l'argent dans le parc-mètre, mais c'est transformé une place de parking momentanément en parc, et c'est devenu une journée, maintenant il y a une journée internationale qui s'appelle Parking Day, il y a plein de villes en France qui le font. Et donc là, c'est vraiment, c'est très symbolique, c'est temporaire, mais c'est vraiment interroger, effectivement, la ville, l'espace public, comme espace commun, utilisation commune. Et j'en arrive du coup à mon dernier exemple qui est, on revient en Angleterre, et c'est Incredible Edible, donc incroyable comestible en français. On est à Todmorden, c'est une petite ville anciennement industrielle au nord de Manchester, et un peu comme Détroit, mais une échelle très différente, ou comme New York dans les années 70, fin de l'industrie textile, donc tout le monde s'en va, on se retrouve avec des terrains vagues. Et donc en 2008, trois amis ont cette idée de planter donc du comestible dans l'espace public. Ce qui est intéressant, c'est leur définition de l'espace public, qui cette fois n'a plus rien à voir avec un titre de propriété. En fait, peu importe que la propriété soit publique ou privée, c'est une question d'accessibilité et de visibilité. Donc elles n'utilisent pas le terme de commun, mais c'est quand même plus cette idée-là. Et donc non seulement ça, mais également de permettre à quiconque de se servir. Donc là, c'est plutôt de l'aromatique, mais ici, alors évidemment avec des choix de lieux très symboliques, donc la station de police avec son maïs, etc. Et donc de la part des gens qui viennent cueillir, soit ceux qui n'osent pas, parce que quand même c'est devant la station de police, soit ceux qui trouvent ça particulièrement jouissif. Et puis le cimetière aussi, qui est, enfin surtout chez nous, quand même un lieu un peu auquel on ne peut pas trop toucher. Et là, comme c'est une école où ils n'avaient pas de terrain pour cultiver, ils sont allés faire dans le cimetière d'à côté. Voilà. Et donc là, on a vraiment un discours à la fois sur l'alimentaire, le local, mais le partage, et puis aussi cette idée que c'est pas parce que il y a plus d'industrie, que les pouvoirs publics ne font plus rien, qu'on peut pas. Et ça, c'est très anglo-saxon. Hein, c'est les exemples aux États-Unis et en Angleterre, mais de pouvoir réinvestir la ville par les citoyens. Et je vais laisser Sandrine parler d'Italie.
Alors, on ne va pas voyager dans le temps, mais un petit peu dans l'espace quand même. Et juste pour vous donner quelques exemples ailleurs en Europe. Donc, initialement, et je vous prie de m'en excuser, j'étais censée intervenir sur les devenirs des jardins aujourd'hui, puisque Sandrine a parlé un peu des choses qui se passaient au début dans les années 70 et même avant et jusqu'aux années 2000. J'étais censée voir un petit peu ce qui se passait aux États-Unis, en Angleterre. Et puis, mon terrain n'a pas marché, c'est-à-dire que ce que j'avais prévu de vous présenter ne s'est pas fait. Donc, je me suis rabattue sur le cas italien. Pourquoi le cas italien ? Parce que, en réalité, je travaille avec des étudiants, et notamment une étudiante en thèse, qui fait une comparaison des jardins partagés en France, mais ça ne vous paraissait pas assez exotique. J'avais pourtant plein de beaux exemples, mais tant pis. Et en Italie. Et là, on est donc dans le reste de l'Europe, avec des cas à Rome, des cas romains. Donc, ce que vous voyez projeté ici, c'est une partie des terrains qu'elle a réalisés au cours des trois dernières années. Donc on se trouve dans l'anneau circulaire en haut, que vous voyez en haut à droite, non, pardon, en haut à gauche, c'est merci. C'est l'anneau circulaire romain. Rome est une ville, une, Non, je suis très mauvaise à ça.